France Info.
Franck Tapiro, avec nous, fondateur de l'entreprise, la société, la start-up Datacalab, qui étudie les émotions en matière de politique, mais pas seulement, et aussi fondateur et PDG de l'agence Hémisphère Droit. Elle s'appelle Hémisphère Droit, pour quelle raison votre agence ?
Parce que l'hémisphère droit est la partie du cerveau la plus créative et la plus imaginatrice. C'est celle qui... voilà, qui pousse les gens à sortir du cadre en permanence et à sortir des sentiers battus.
C'est facile à mémoriser, c'est l'inverse de la politique. L'hémisphère gauche est la rigueur.
C'est la rigueur irrationnelle.
En 88, vous occupiez de la campagne de François Mitterrand. On l'a dit, c'est vous qui aviez inventé le fameux slogan « Tonton, laisse pas béton ». En 2007, vous étiez l'auteur du slogan de campagne Nicolas Sarkozy « Ensemble, tout devient possible ». Comment avez-vous jugé la communication de François Fillon après l'affaire Pénélope ?
La communication de François Fillon avait été ratée dès le premier soir, parce qu'au lieu de se battre sur le côté légal de cet emploi, qui, fictif ou non, c'était pas le sujet de dire que c'était légal. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des Français avaient commencé à juger François Fillon sur le côté inacceptable. Et en fait, au lieu de parler à ces juges possibles, en prônant le fait que cet emploi était réel et légal, il fallait qu'il parle à ces juges, c'est-à-dire aux citoyens qui allaient voter pour lui, à l'ensemble des Français qui l'attendaient sur le fait que cet emploi, même s'il était réel, est totalement inacceptable parce que les Français, eux, n'ont pas la chance d'avoir un parent ou un proche ministre qui peut leur donner un emploi. Donc d'abord, la première chose, c'est créer un climat de confiance qui fait que la personne qui est aidée, qui est donc conseillée, prend d'abord un vrai conseil et puis décide vraiment de façon conjointe telle ou telle ou telle stratégie. Mais quand on a quelqu'un qui est conseillé par 1, 2, 3 ou 4 ou 5 personnes et qui finalement est un franc-tireur comme un pilote de Formule 1 dans son cockpit, eh ben on peut imaginer qu'il s'en va dans le décor.
Vous avez connu la communication de crise, vous, Franck Tapiro ?
Oh que oui.
Ah oui, c'était, moi je me rappelle de l'affaire Ikea.
Ah bah oui,
Trois dirigeants mis en examen pour espionnage, ça plombe l'image du groupe. Comment avez-vous travaillé ?
Vous savez, quand il y a un cyclone, il faut toujours aller au cœur du cyclone, parce que d'abord, c'est là où c'est le plus calme. Donc encore une fois, si vous évitez les problèmes, ils vous arrivent encore plus dans la figure. Et je dis à chaque fois, dans une communication de crise, il faut communiquer, sinon c'est la crise qui communique pour vous. Donc il faut être offensif, il faut être calme, serein, déterminé. Et quand vous avez une crise, vous savez, il y a un début, il y a une fin de crise. Mmh. Et pour cela, il faut s'attacher, comme avec un homme politique, à ses fondamentaux. Vous prenez les fondamentaux de la marque et vous essayez d'en faire une prise d'aïkido. Parce que la crise, c'est un gros coup, mais quand vous la fuyez, elle continue à vous taper dessus. Et quand vous la prenez de face, il suffit d'une bonne prise d'aïkido, puis vous rebondissez. Donc on a pris des valeurs de la marque, qui étaient cette énergie positive magnifique, cette sympathie, ce fait qu'elle s'adresse à tous. Et quand on a créé Newt, qui voulait dire en suédois « enjoy », hein, ça voulait dire « kiffer, s'éclater, profiter », et ben c'était une parade finalement à toutes les attaques négatives qu'il pouvait y avoir sur Ikea.
Oh dis donc, c'est l'école Chirac, j'y pense à l'instant. Quand il était embêté par les affaires, il avait créé Pchit. Et là, vous avez fait Newt, un mot qui veut rien dire, que personne ne connaît et qui fait qu'on l'utilise et qu'on oublie les autres.
Mais la différence, c'est que Newt, lui, n'a pas fait Pchit.
Vous aviez aussi en charge la communication de l'équipe de France de foot. C'était entre 2008 et 2010. Oui. On se souvient de l'épisode ridicule des joueurs qui ne veulent pas descendre du bus en Afrique du Sud pour s'entraîner, c'était Anaïs Nin. À l'époque, vous vouliez inscrire dans la charte de l'équipe de France le fait que les joueurs chantent la Marseillaise. C'en est où ? Vous avez été suivi là-dessus ?
Non, ça s'est très mal passé. En fait, c'est peut-être ma pire expérience de ma vie professionnelle.
Ah bon ?
Mais oui, pourquoi ? Parce que d'abord, je suis un fan absolu de football. Je suis joueur, ancien président de club, etc. Et je suis un fan de l'équipe de France. Et quand j'ai vu que cette équipe de France avait été kidnappée par quelques personnes qui pensaient qu'en fait, elle leur appartenait, cette équipe, alors qu'elle n'appartient ni à personne, elle n'appartient pas aux joueurs, elle appartient aux Français. Ce jour-là, je me suis vraiment désolidarisé d'eux. Je me suis battu pendant 2 ans pour essayer qu'ils communiquent un peu mieux, mais j'avais là-bas des gens qui m'ont interdit en fait de communiquer. Donc c'est la première fois que j'étais payé pour ne pas communiquer. J'ai écrit 2 courriers, c'était totalement confidentiel, mais des courriers recommandés parce qu'ils ne me répondaient pas, bien avant la Coupe du Monde. Et au lendemain d'Anaïs Nin, j'ai publié ces courriers dans l'équipe, puisqu'il fallait que les gens sachent qu'à l'intérieur quand même, et leurs partenaires s'affairaient justement autour de l'équipe de France pour essayer d'éviter le drame. Et le drame, ça a été Anaïs Nin, mais le drame aurait pu être évité depuis bien longtemps s'ils nous avaient écoutés et s'ils avaient enfin eu une communication transparente vis-à-vis des Français. Et là, en fait, cette équipe, ils l'ont suicidée, ils l'ont envoyée dans le mur.
Franck Tapiro avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure.